reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target, Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m., in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
France Inter. France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça,
mais pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre parler plus de 120 langues à la fois sur le macadam de Toronto. Pas étonnant, si l'on considère ce que nous allons pas manquer de faire. Pour ça.
20 ans de ciné franco. Au cinéma Carlton, à Toronto, jusqu'au 12 octobre. Et Potpourri Show est fier d'être de la fête. Pour cette 20e édition, Ciné Franco a concocté un cocktail pétillant de comédie des quatre coins de la planète francophone avec l'humour et la comédie. De Paris à Montréal, de la République très très démocratique de Gondwana et en passant par le Maroc. Jusqu'au 12 octobre, fêtons les 20 ans de Ciné Franco, le cinéma international francophone à Toronto, au Cinéma Carlton. Demandez le programme, réservez vos places immédiatement. www.cinefranco.com.
Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Journée de partage et de solidarité. Joyeuse action de grâce à vous tous. Bonjour les amis, vous êtes nombreux aujourd'hui dans le studio Potpourri Show, 30 ans déjà, Francophonie sans frontières, jusqu'à 13h, en direct, live, www.cut.fm, www.cut.fm. Et l'ingénieur du son aujourd'hui, DJ De Vera, thank you. Merci d'être là au microphone, Eric Adair, avec vous jusqu'à 13h. 20 ans de ciné franco, 30 ans de radio. Soyez de la fête jusqu'au 12 octobre avec Ciné Franco et CUTFM au Cinéma Carlton. Et notre invitée dans la deuxième heure, Marceline, fondatrice de Ciné Franco. Eh oui, à qui nous disons bon succès, bon courage et bonne fête d'Action de Grâce à toute votre famille, Marcel. Découvrez toutes les fiches promo de Ciné Franco, www.cinéfranco.com. Et vous avez justement été nombreux à répondre à notre jeu concours de dimanche dernier. Et oui, malheureusement, pour ceux et celles qui n'ont pas pu avoir des billets de Ciné Franco, mais qui sait, vous aurez peut-être d'autres cadeaux. Nous aimons faire que des heureux à cette émission. Afin de faire résonner la vitalité des cultures francophones, Ciné Franco organise des activités cinématographiques tout au long de l'année. C'était la question de dimanche dernier. Vrai ou faux? La réponse est bien sûr vrai, parce que Ciné Franco organise des séances de cinéma à la bibliothèque de Toronto ou encore dans les écoles. Merci à Marceline, Ciné Franco et tous ceux et celles qui ont participé. Bravo aux gagnants et gagnantes. Ant J. Zinten, Corinne, professeur Corinne Bocchi, Jean Jubeneau, Roland Smith, Ahmed Khan et Chantal Bazerque. Bravo, bravo. Au menu, aujourd'hui, pas de dinde, non, je vous en préviens. Ce dimanche 8 octobre, jour d'Action de Grâce, nous recevons en primeur Jean-Marie Gustave Leclésio, grand écrivain franco-mauricien, prix Nobel de littérature en 2008. Il est notre invité pour évoquer son dernier roman, Alma, aux éditions Gallimard. Et oui, il aborde la filiation, les origines de l'ascendance. Il nous lira un texte extraordinaire et inédit dans lequel il prend position pour les migrants. Grand sujet d'actualité en ce moment en Europe, comme vous le savez. Collaboration spéciale Radio France et France Inter. Merci infiniment. D'importantes modifications à la loi sur la citoyenneté canadienne entreront en vigueur dès le 11 octobre. Au Québec, les immigrants sont la boomerang politique. Et oui, les Québécois sont mécontents à propos de la façon du Premier ministre Philippe Couillard de gérer la situation des migrants depuis le début de l'été. La violence verbale est à son comble dans les médias au Québec en ce moment. Et en ce qui concerne la Commission sur le racisme systémique au Québec, Philippe Couillard est pris entre l'arbre et l'écorce. La grande question du jour, à quand un Québec inclusif? Message de notre ami José Durand-Lau, Autospace vous convie à l'exposition d'art ayant pour thème Flow. Soyez au rendez-vous avec la photographe artistique Martine Côté, la collagiste José Durand-Lau et le designer de mobilier de bois contemporain Stéphane Redlich. On vous invite aussi à être des nôtres lors de la réception au vernissage jeudi 19 octobre et nous aurons le plaisir d'accueillir Martine Côté, artiste, photographe, dans la deuxième heure. L'édito de ce dimanche, savez-vous qu'un nouveau groupe terroriste sévit en Égypte? Eh oui, les services de renseignement et de police du président Sissi sont sur les dents, les membres LGBT sont la nouvelle cible de l'État égyptien en ce moment. Et nous venons d'apprendre que la police indonésienne a arrêté 58 hommes, dont plusieurs étrangers, lors d'une opération menée dans un sonagé de la capitale Jakarta. Fusillade à Las Vegas, malgré le carnage perpétré par le tueur, le président Trump ne considère pas cet acte de terrorisme. Et oui, et si c'était une personne avec un nom à consonance musulmane, alors... Un touriste français en visite à Las Vegas témoigne. Dossier santé et droits des femmes en Ontario, passé à la loupe lors de cette émission. Et savez-vous que 3 tasses de café par jour pourraient diminuer la mortalité des patients co-infectés VIH-VHC? Et découvrez la compilation des artistes préférés et les succès de l'été 2017 de nos radios partenaires, collaboration RFI Musique, et nos DJ partenaires partout dans le monde. Incroyable, mais vrai, notre chanteur préféré, DJ Devera, Maître Gims, dévoile son double de cire au musée Grévin en France. De quoi en faire des jaloux. Découvrez les adresses mythiques de la belle ville Rennes et nos bons plans. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Des restaurants, des bistrots, des films, que sais-je. pot.pourri@sympatico.ca ou encore popourri@cut.fm. Et dans le cadre de la semaine de l'immigration et justement avec les changements annoncés au sein de l'immigration Canada, dès la semaine prochaine, la Société d'histoire de Toronto vous invite à une visite guidée au Canada, droit et citoyenneté, samedi le 14 octobre, la veille du grand jour de Monsieur DJ Devera, si vous ne le savez pas. Eh oui, alors on parlera avec Lisette Maillet. D'ailleurs, on a de la difficulté à rejoindre Lisette Maillet. Si vous la connaissez, un petit message. Notre numéro de téléphone au studio, c'est 86 946 7000. Je répète, 86 946 7000. Lisette Maillet, SOS, s'il vous plaît. Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Bonjour à tous, c'est Joe. L'heure est grave, je rentre tout juste du travail et je viens de découvrir avec effroi ce qu'il s'est passé à Las Vegas. Cette nuit, cette destination de rêve s'est transformée en lieu de terreur, marquant l'histoire américaine de façon sanglante. Stephen Paddock, 64 ans, est responsable de la plus meurtrière fusillade de masse dans l'histoire moderne des USA. À l'heure où j'écris ces lignes, le bilan est de 58 morts et de plus de 500 blessés. Cela s'est déroulé lors du Route 91 Harvest Music Festival en extérieur. 20 000 personnes écoutaient la musique, profitaient de leur soirée, lorsque le tireur, posté au 32e étage du Mandala Bay Hotel, a ouvert le feu en direction de la foule. Sur ce plan aérien de ABC News, on aperçoit les fenêtres cassées d'où il a tiré. La mort invisible venue du ciel, frappant sans relâche les innocents dans des bruits de tirs assassins. Chacun dut mettre sa vie à l'abri au plus vite, dans la panique. Stephen Paddock ne sera pas arrêté. Il s'est suicidé en se tirant dessus. Pour l'instant, la motivation de son acte reste inconnue. Il n'aurait pas non plus de passé criminel. C'était un pilote privé et il possédait un permis de chasse. Son frère Eric Paddock affirme que lui et sa famille n'ont aucune idée sur le comment et le pourquoi de cet acte. De ce qu'il savait, Steve allait parfaitement bien. Hillary Clinton a tweeté que la foule s'est enfuie grâce au son des tirs. Imaginez le nombre de morts si le tireur avait eu un silencieux, ce que la NRA veut qu'on obtienne plus facilement. J'espère qu'on en saura plus dans les heures et jours qui viennent. J'envoie mes plus sincères pensées aux personnes touchées par la tragédie. Pray for Vegas.
We cannot imagine there.
Et oui, l'auteur de la tuerie de Las Vegas, Stephen Paddock, est un homme de 64 ans, sans histoire, au lendemain des événements qui ont fait 58 morts et plus de 500 blessés. Il est difficile de déterminer les motivations de cet homme. Le docteur Gilles Chamberlain, médecin, psychiatre et directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal, n'écarte pas la possibilité qu'une pathologie soit en cause. Au moins 4 Canadiens ont été identifiés parmi les personnes qui ont été tuées dimanche dernier. Nos plus sincères condoléances à toutes ces familles éprouvées. En Ontario, plus près de nous, les manifestants anti-avortement ne pourront plus s'installer à proximité des cliniques d'avortement ni manifester près des lieux de résidence des gens qui travaillent à offrir ces services de santé si un nouveau projet de loi est adopté. Les gens qui ne respecteraient pas cette règle s'exposeraient à des amendes d'un maximum de 5 000 $ ainsi qu'à 6 mois de prison. L'Ontario met sur place un groupe d'intervention d'urgence face aux opioïdes qui comprendra des intervenants de première ligne et des personnes ayant une expérience directe avec, afin de renforcer la réponse coordonnée de la province à la crise des opioïdes. Grave problème, une grave crise partout au Canada et aussi aux États-Unis. Toujours en Ontario, la province accroît les soins infirmiers et les soutiens à la personne grâce à un élargissement important des soins à domicile, une première je pense en Ontario. Les patients et les familles profiteront de 2,6 millions d'heures de soins à domicile supplémentaires dans la province. L'Ontario présente un projet de loi qui crée un accès sécuritaire aux services d'interruption volontaire de grossesse. La province protège ainsi le droit des femmes de choisir d'avoir accès à des services d'interruption volontaire de grossesse sans craindre d'être entravées, intimidées ou harcelées. Voilà une belle leçon pour le gouvernement de M. Trump. D'importantes modifications à la loi sur la citoyenneté canadienne entreront en vigueur la semaine prochaine. Dès le 11 octobre, les personnes souhaitant obtenir la citoyenneté devront avoir été présentes au Canada pendant au moins 3 des 5 années précédant leur demande. Tout un changement. Un autre critère d'admissibilité selon lequel les demandeurs devraient se trouver en sol canadien au moins 183 jours par année a été aboli. Et la mise en application du projet de loi C6 permettra donc aux résidents permanents d'étudier à l'étranger et de quitter le pays pour le travail ou pour des raisons familiales sans compromettre leurs chances de devenir citoyens. Au Québec, la bonne foi du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, de combattre le racisme est mise en doute. La consultation sur le racisme systémique n'aura peut-être pas lieu. C'est pas confirmé encore, mais on suit ce dossier de très près. En effet, après une cinglante défaite lors d'une élection partielle la semaine dernière, le gouvernement du Québec a fait face aux pressions des Québécois pur laine d'abandonner son combat pour lutter contre le racisme et les inégalités au Québec. En effet, depuis des décennies, tout le monde en parle et plusieurs études démontrent les obstacles systémiques dans la fonction publique et le secteur privé qui empêchent les membres LGBTQIA, les immigrants, professionnels qualifiés, compétents, d'accéder à des postes. Et pour sa part, la table de concertation refuse que le premier ministre élimine et amoindrisse cette consultation systémique sur le racisme. Samira Lahouni, sa coprésidente, a déclaré qu'il est impératif que le gouvernement prenne ses distances du processus afin que les considérations partisanes, électorales, n'influencent pas les travaux de la Commission des droits de la personne. Il faut se rappeler qu'en Ontario, nous avons eu droit à une même consultation et tout s'est passé presque sans histoire, n'est-ce pas? Même si je dois avouer que l'Ontario ne saisisse pas toujours très bien la pertinence et les défis que rencontrent les immigrants francophones en Ontario. Quand on regarde ce matin ce qui se passe en Espagne, on peut s'attendre à un projet indépendant, plus musclé, lors des prochaines élections au Québec. Dossier à suivre. Savez-vous qu'un nouveau groupe terroriste sévit en Égypte? Eh oui, les services de renseignement et de police du président Sissi sont sur les dents. Les autorités sont obligées de se camoufler derrière des pseudonymes, des alias ou encore pour surfer sur les sites de rencontres afin de capturer de dangereux homosexuels. Eh oui, il n'y a pas de quoi rire. Les gays, les homosexuels sont la nouvelle cible de l'État égyptien. Au moins 11 d'entre eux ont été arrêtés depuis la fin septembre. D'après l'organisation Human Rights Watch, les procès se multiplient. Au moins 34 lors de l'année écoulée. Et ils se terminent le plus souvent par des condamnations à de lourdes peines, très très lourdes. 6 ans de prison par exemple le 26 septembre pour un malheureux jeune homme, plus 6 autres années de mise à l'épreuve durant lesquelles il ne pourra pas sortir de chez lui de 6h le soir à 6h du matin. Le motif de la condamnation, débauche publique, quand ce n'est pas prostitution, car l'homosexualité n'est pas interdite en Égypte, elle n'est juste pas tolérée par le gouvernement actuel. Donc, vous êtes homosexuel en Égypte, c'est possible, mais il ne faut pas le revendiquer, ni demander des droits, puisque vous n'existez pas. La situation des pays, ou de l'Égypte plutôt, crise économique, situation sécuritaire précaire, et la raison de fond de ses actions, nous dit-on. Et il s'agit là de détourner l'attention de l'opinion publique, et les homosexuels sont de parfaits boucs émissaires. Pour un régime qui combat les frères musulmans et l'islamisme, tout ceci paraît un peu contradictoire, n'est-ce pas? Le maréchal Abdel Fattah al-Sissi est la preuve qu'on peut être anti-islamiste sans être progressiste pour autant. Ce qu'il combat, c'est l'utilisation de l'islam en politique pour lui faire concurrence. Mais l'intégrisme reste bien pratique. Il sert au régime à contrôler la population, à flatter ses instincts réactionnaires. Il serait temps pour le Canada de rappeler que la répression des homosexuels n'est pas compatible avec nos valeurs, en Égypte comme ailleurs. Et maintenant, nous allons passer à un témoignage d'un Français qui était témoin de cette tuerie à Las Vegas.
Dès les premiers coups de feu, j'ai dit à ma femme, c'est des coups de feu. On est rentré dans les bâtiments qui étaient juste derrière nous. Tout le monde était déjà en train de se jeter au sol. Les rafales ne s'arrêtaient pas, ça durait très très longtemps. Il y a eu des centaines de coups de feu. Bien sûr que j'ai eu peur. J'ai relevé la tête juste pour regarder par la fenêtre ce qui se passait en fait. Et là, j'ai vu le mouvement de foule gigantesque, scène de panique absolument surréaliste. Il a fallu courir pour sa vie. Pour l'instant, c'est une sensation un peu bizarre, un peu surréaliste. Puis on verra demain.
Oh, oh, parce que t'es courageux. De regarder dans le fond des yeux, celui qui te défie d'être heureux. T'es beau comme un cri silencieux, vaillant comme un métal précieux, qui se bat pour guérir de ses bleus. C'est comme une rengaine, quelques notes à peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. Parce que c'est orageux, avec ce temps je connais peu les mots qui traînent au coin de mes yeux. C'est comme une rengaine, quelques notes en peine, qui force mon cœur, qui force ma joie quand je pense à toi. Toi qui sors de scène, sans armée, sans haine, j'ai peur d'oublier, j'ai peur d'accepter, j'ai peur de vivre.
Les cinémas du monde avec Ciné Franco. 20 ans de cinéma, 30 ans de radio jusqu'au 12 octobre au Cinéma Carlton à Toronto. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins et bons services en santé. Rochelet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Rochelet Salvéo ? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Rochelet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Rochelet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Rochelet Salvéo en visitant le site web www.rochelet-salvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Rochelet Salvéo.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Potpourri Show, 30 ans déjà. Avec
RFI, toute la diversité du monde.
Radio France et France Inter étaient au rendez-vous lors du lancement de son nouveau roman, Alma, de Le Clésio, le grand écrivain francophone, franco-mauricienne. Il vient de paraître chez Gallimard, Alma. Dans Alma se croisent les histoires de deux personnages, le premier Jérémy qui se rend à l'île Maurice à la recherche de ses ancêtres, mais aussi des traces laissées par ces drôles d'oiseaux disparus que sont les dodos. Connaissez-vous le dodo ? Le second quitte l'île Maurice pour la France, il s'appelle Dominique et est surnommé justement Dodo. Un livre qui tourne autour des dodos. Donc, mais que signifient ces oiseaux pour Jean-Marie Gustave Le Clésio ? Il répond au micro d'Augustin Trapenard. Les dodos, première victime officielle des humains. Jean-Marie Gustave Le Clésio, plus connu sous la signature de Le Clésio, né le 13 avril 1940 à Nice, est un écrivain de langue française, comme il se définit lui-même, de nationalité française et mauricienne. Il connaît très vite le succès avec son premier roman publié Le Procès-Verbal en 1963. Jusqu'au milieu des années 1970, son œuvre littéraire porte la marque des recherches formelles du nouveau roman. Par la suite, influencé par ses origines familiales, par ses incessants voyages et par son goût marqué pour les cultures amérindiennes, Le Clésio publie des romans qui font une large part à l'onirisme et au mythe Désert et Le Chercheur d'Or, ainsi que des livres à dominante plus personnelle, autobiographique ou familiale, par exemple L'Africain. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages de fiction, romans, contes, nouvelles et d'essais. Jean-Marie Gustave Le Clésio, l'écrivain franco-mauricien, prix Nobel de littérature en 2008, est notre invité pour évoquer son dernier roman Alma aux éditions Gallimard. Il y aborde la filiation des origines et l'ascendance, collaboration spéciale
de Radio France et France Inter.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, Alma, qui sort aujourd'hui aux éditions Gallimard, est un roman qui nous entraîne dans une quête des origines à l'île Maurice, mais aussi une quête des premiers oiseaux, hein, les mythiques et disparus dodo, ces oiseaux qui ont disparu depuis des siècles. C'est l'histoire d'un homme, il s'appelle Jérémy Felsen. Il débarque à Maurice, l'île de ses ancêtres, et puis il tente de comprendre ce qui s'est joué, loin des plages pour touristes, dans les forêts qui abritaient les esclaves. Mais c'est aussi l'histoire du dernier des Felsen de l'île Maurice, celui que l'on a surnommé le clochard magnifique, le clochard merveilleux. Lorsque cette famille, les Felsen, arrive à l'île Maurice, on est en 1796, la forêt couvrait, écrivez-vous, les 9/10 de la surface de l'île. Et aujourd'hui ?
Oui, ce sont juste des restes. Malheureusement, l'île Maurice a suivi le chemin de la plupart des pays du monde, c'est-à-dire que on a déboisé, on a annexé pour une monoculture qui est ruineuse, qui est la monoculture de la canne à sucre. Canne à sucre est un produit qui est ruineux. Il est ruineux à tous égards. Il ruine la terre, il ruine les hommes, il ruine les sociétés. Et tout ça pour le profit des grandes compagnies sucrières qui ont régné sur le 19e siècle. C'est le début de l'ère industrielle. Donc les forêts dans le monde entier ont subi l'ère industrielle, les conséquences de l'industrialisation et donc du déboisement.
Il y a deux mémoires qui sont enfouies dans vos pages et aussi dans les collines de Maurice. La mémoire des dodos, ces oiseaux disparus, et puis celle des esclaves qui ont battu ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire les empires sucriers. Qui peut raconter ces mondes disparus ?
Oui. Il y a aussi un troisième acteur dont on ne parle pas beaucoup à Maurice, qui est la pensée hindouiste, qui, elle, s'est parfaitement adaptée au monde des forêts. Et qui a, je crois que c'est à cette pensée qu'on doit la conservation du peu de végétaux qui subsistent maintenant à Maurice. C'est personnes qu'on a fait venir de l'Inde pour cultiver après l'abolition de l'esclavage. On a fait venir des travailleurs, on appelait les coulis, des travailleurs qui venaient de l'Inde et essentiellement quelques Chinois aussi. Et ils ont remplacé cette main-d'œuvre gratuite. C'était une main-d'œuvre qui ne coûtait pas cher. Mais eux apportaient en même temps quelque chose qui n'existait pas. C'était une certaine harmonie avec la nature. Et donc, les premiers temples ont été construits dans la forêt. Et ils sont aussi anciens pratiquement que l'arrivée des Européens sur l'île. Les premiers temples datent des années 1800, les premiers temples indiens. Et on le sait parce que les Anglais, lorsqu'ils ont fait la conquête en 1810 de Maurice, la première chose qu'ils ont rencontrée sur leur route, c'est un temple indien. Et ils ont été étonnés parce que c'était un temple qui ressemblait à ce qu'ils connaissaient de l'Inde, et c'était à Maurice. Et c'était dans la forêt. Donc cette partie de la population a su préserver ce goût et ce respect de la nature qui, je crois, font que Maurice n'est pas entièrement détruite. C'est grâce à eux que Maurice a survécu. Je pense que s'ils étaient arrivés les premiers, peut-être le dodo aurait eu quelques chances. Malheureusement, ce sont les Hollandais qui sont arrivés. Et ils se mettaient à deux. L'un tenait un chiffon rouge. Et l'autre, pendant que le dodo regardait le chiffon, l'autre passait par derrière et lui donnait un coup de trick. Et le dodo, exit le dodo, il n'y avait plus de dodo.
Alors il faut en parler justement de ce dodo, cet animal que l'on a souvent comparé au phénix, parce qu'il est à la fois disparu et puis parce que c'est un mythe qu'on espère voir renaître. Votre personnage principal, Jérémy Felsen, sous couvert de faire cette enquête sur ses origines, cherche aussi le dodo. Il part avec d'ailleurs dans la poche une pierre ronde. C'est vrai que les dodos mangeaient les pierres ?
C'est pas qu'il les mangeait, mais comme tous les colombidés, il a besoin de cailloux pour digérer les graines qu'il absorbe. Seulement, comme il est énorme, il a à peu près son œsophage doit avoir la taille de l'œsophage de l'autruche, il avale des très grosses pierres. Et un de mes cousins m'a montré gastrolite, je crois que c'est le nom que ça. Et c'est un caillou qui a à peu près la taille d'une balle de... un peu plus petit que la balle de tennis. Un très gros caillou qui a été absorbé par le dodo pour broyer les graines d'une plante qui risque de disparaître. Il y a un arbre qui s'appelle le tombalacoque, qui est une variété de bois de fer. Et cet arbre ne pouvait pousser que lorsque le dodo avait absorbé la graine qu'il donnait. Et depuis qu'il n'y a plus de dodo, eh bien, l'arbre ne pousse plus. Il reste des arbres, mais ils ont 300 ans.
Donc, il n'y a plus de dodo, il n'y a pratiquement plus de forêt, il n'y a presque plus de ces descendants des hindouistes que vous évoquiez, sauf peut-être un personnage lumineux, solaire, rayonnant, Aditi. Dans ce livre, vous écrivez, on le disait tout à l'heure, sur les mondes perdus. Je lis là, page 47, dans le livre de Christian Bobin. Je crois que j'ai toujours écrit pour sauver quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de faire, Jean-Marie Le Clézio, écrire pour sauver quelque chose ou quelqu'un?
Ah, je pense, dans sa parole déjà, parce que en rapportant simplement de façon très très claire et non littéraire ce qui s'est passé avec la préservation d'une toute petite partie de la forêt par quelque chose qui est spirituel, en fait. C'est le spirituel qui sauve les gens, qui nous sauve. S'il y a quelque chose qui va nous sauver, c'est ça. Ça sauve les arbres, ça peut sauver la forêt, ça peut sauver nous aussi. Donc moi, bien sûr, l'écriture de Jean-Marie Le Clézio, elle a un scintillement qui porte quelque chose. Je vous ai lu en ce livre-là. Il a quelque chose de un petit peu hanté et comment dire. Je vois le miroitement de l'eau sur la mer. Vous voyez ces choses extrêmement ténues, argentées et qui se multiplient et qui sont jamais les mêmes. Et les deux écritures, vous l'avez pas peut-être encore assez dit. Vous l'avez dit, mais il y a deux tons, il y a deux timbres, hein. Et le tout est poétique et c'est la poésie qui sauve. C'est la poésie, c'est-à-dire c'est la beauté revenue vers nous.
La poésie, c'est la beauté revenue vers nous.
Oui, oui.
Vous avez deux timbres, effectivement. Jérémy Felsen, aujourd'hui, il revient sur une terre qu'il ne connaît pas, c'est celle de ses ancêtres. Pourtant, il a l'impression de la connaître hein, lorsqu'il y pose le pied. Et puis, la deuxième voix, alors ça j'adore. La deuxième voix parle du passé au présent. N'emploie jamais le futur, raconte sa jeunesse au présent. On découvre, page après page, qu'il s'agit d'un homme comme ceux qui peuplent les romans de Le Clézio, c'est-à-dire les égarés, les proscrits, les sans-grades, ceux qu'on oublie. On regarde même plus hein, son visage mangé par une maladie, le grand Sigma. Il était autrefois d'une grande famille qui régnait sur Maurice. Aujourd'hui, il est un clochard merveilleux. Il s'appelle Dominique, alias
Dodo.
Pour quelle raison ne parle-t-il qu'au présent ?
Bien, je ne sais pas du tout. Ça s'est imposé pour moi que quelqu'un comme cet être-là, qui est une sorte de monstre, mais merveilleux en même temps, ne peut pas considérer que le temps passe. Et il doit avoir le sentiment que le temps est toujours là, toujours le même temps. D'ailleurs, il ne dort pas. Il est affligé de cette maladie qui empêche le sommeil. Il n'a plus de paupières, donc il ne dort pas, il ne dort jamais. Et quand on ne dort pas, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, c'est toujours le même jour qui se continue. Et donc c'est un peu un exercice de style pour moi de me mettre au présent. Et au début, je l'ai fait comme ça, et puis après, j'ai pensé que c'était vraiment la destination de l'écriture, la destination finale. C'était d'abolir le passé, d'abolir le futur et de vivre intensément et de façon très durable l'instant, la séquence d'instants que nous vivons. La littérature ne parle pas de passé, elle ne parle pas de futur, elle parle du moment où elle est écrite et ce moment-là est le plus important pour celui qui l'écrit. Et c'est ça qu'il doit partager avec les autres. Et je crois que c'est pour ça que je l'ai fait, dans cette idée-là.
À quel moment, Jean-Marie Gustave Le Clézio, est venue l'envie de confronter ces personnages à une autre dimension, à un autre monde disparu, mais qui hante le livre aussi de Véronique Olmy, l'esclavage, les marrons, c'est-à-dire ces esclaves en révolte qui gagnaient les collines et qui finissaient par engloutis par ces collines, les camps que l'on a détruits, écrivez-vous, non pas parce qu'on avait honte, mais parce que ça gênait les touristes qui venaient voir les lagons bleus. À quel moment cette mémoire de l'esclavage est apparue dans le roman ?
La première fois que je suis allé à Maurice, j'ai vu des tas de pierres dans les champs de canne. Et j'ai demandé à ma tante, qui est mauricienne, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces pierres ? Elle m'a dit, ce sont les monuments à la mémoire des martyrs de la canne. Elle m'a dit, ce sont les esclaves qu'on avait mis au travail pour qu'ils dépierrent les champs. Et comme on ne savait pas quoi faire des cailloux, on faisait des tas. Et ces tas sont toujours là, on les voit toujours. Et même dans la Maurice actuelle, qui devient quelquefois de façon outrancière un endroit de plaisir et de vacances, on n'a pas réussi à se débarrasser de ces pierres. Elles sont toujours là. C'est la mémoire de l'esclavage, c'est ça. Ce sont ces monuments noirs, ces pierres noires qui parsèment l'île. Et donc, j'ai eu envie de savoir qui avait fait ça. Je suis allé rue Audinot, où il y avait les archives, je trouve les archives d'Outre-mer, et j'ai essayé de trouver les noms des esclaves. Et j'ai constaté une chose assez étonnante, c'est que lorsque les esclaves arrivaient, on leur donnait un prénom, on les baptisait. Bon, et les Espagnols ont fait la même chose en Amérique. On les baptisait tous ensemble au même moment. Mais pour leur trouver un nom de famille. Alors, c'est soit le nom du propriétaire auquel ils allaient être soumis, soit le nom du bateau dans lequel ils étaient. Il y a beaucoup de gens à Maurice qui portent des noms de bateaux. Les noms des frégates, les noms des schooners et des briques qui faisaient le trafic entre l'Europe et ces îles, donc ils portent des noms de bateaux.
Chez vous aussi, hein, Véronique Olmy, on parlera tout à l'heure du destin de Baquita, mais sans rentrer dans le détail de sa vie, ce qui est frappant, c'est qu'on a le sentiment que tout repose sur ce vol, le vol du nom. À l'âge de 7 ans, quand elle est razziée, elle oublie le nom de ses parents.
Elle oublie son prénom. Dans la terreur de l'enlèvement, elle oublie comment elle se nomme. Et effectivement, on débaptisait les esclaves pour leur donner à la fois un nom musulman et puis aussi pour qu'ils ne puissent pas se retrouver les uns les autres, puisqu'ils se cherchaient tous, tout le temps, dans ces longues marches de centre de tri en centre de tri, et ils demandaient les nouvelles des uns et des autres. Et ils s'appelaient tous par des noms quasi identiques. Une façon de dépersonnaliser un peuple entier.
Alma, c'est le titre du roman. Alma, c'est le nom que portait cette propriété qui fut jadis celle des Felsen, puisqu'on ne dira pas les Leclésio, Jean-Marie Gustave.
Non, les Leclésio n'étaient pas des grands planteurs. Dans ma famille, c'était plutôt des employés j'ai eu un grand-père qui était juge, un autre qui était avocat, un autre qui était avoué. C'était plutôt des petits fonctionnaires. Bon, enfin, ils participaient tout de même, pas se faire d'illusions. Ils ont participé au système de la traite et ils étaient compromis. Personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas compromis dans ce système. Tout le monde l'a accepté.
C'est le cœur du roman également, de savoir si cette compromission.
C'est pas une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Et j'en porte le poids, mais en même temps, ce n'est pas accablant non plus, parce que il faut se libérer de toute culpabilité pour bien comprendre ce qui s'est passé. Il ne faut pas se contenter de la culpabilité. Il faut aller plus loin. Il faut reconnaître le partage des responsabilités, qui était à partager avec la Compagnie des Indes, avec tout ce qui fait la grandeur du XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle a été édifié sur l'esclavage. De quelques points de vue qu'on le regarde, ça a été la base du XVIIIe siècle, du grand classicisme. Voltaire avait des actions dans la Compagnie des Indes. Donc tout le monde a participé à ça. Personne n'était innocent.
Dans cette maison, Alma, il y avait autrefois un piano. Et avant de devenir le clochard merveilleux, Dominique, alias Dodo, jouait du piano. Ce qui est formidable dans les livres, c'est qu'on peut imaginer. Et ce qui est bien dans les émissions de télévision, surtout quand il y a un piano sur le plateau, c'est qu'on entend la bande originale du livre de Jean-Marie Leclésio, qui donne ceci, Richard Lornac.
Thank you.
Chopin, Nocturne en si bémol mineur. Pour quelle raison, Jean-Marie Eustable Clézio, avez-vous choisi, entre autres, et particulièrement, cette musique jouée par Dominique?
Ma mère était une grande pianiste. Et c'était les morceaux qu'elle nous jouait. Donc, je me souviens bien de ce morceau. Elle jouait Debussy aussi. Donc, je n'ai pas perdu la mémoire de cette musique.
Quand on tourne les pages, on se demande si un jour vous en aurez fini avec les fantômes de votre passé.
Oui, ce ne sont pas vraiment des fantômes, ou alors ils sont très familiers. Ce sont plutôt des esprits qui m'accompagnent. Je me sens soutenu par ces esprits de ma propre famille et aussi de la famille que j'ai créée moi-même. Donc je suis entouré d'influences bénéfiques, même si quelquefois il y a des tiraillements. Et l'écriture, je crois, se nourrit beaucoup pour moi, en tout cas, de ces influences familières.
Et de ces tiraillements. Alma, à lire absolument, l'un des grands romans de Jean-Marie Gustave Leclésio, qui sort aujourd'hui aux éditions Gallimard.
Ça tourne pour moi, quand tu veux.
Tout le monde écoute RFI. Tout le monde écoute RFI.
RFI. R-F-I. R-F-I. R-F-I.
R-F-I. RFI, la radio du monde.
Un message de notre ami José Durand-Leau, grand artiste dans la région de Toronto. Autospace vous convie à l'exposition d'art ayant pour thème Flow. Soyez au rendez-vous avec la photographe artistique Martine Côté, qui sera des nôtres dans la deuxième heure, la collagiste José Durand-Leau et le designer de mobilier de bois contemporain Stéphane Rodlich. Je vous invite à être des nôtres lors de la réception de cette exposition. Jeudi 19 octobre, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. 20 ans de cinéma avec Ciné Franco au cinéma Carlton jusqu'au 12 octobre. Rendez-vous à ne pas rater. La fondatrice de Ciné Franco, Marceline, sera des nôtres vers 12h10 aujourd'hui. La migration n'est pas pour ceux qui l'entreprennent, une croisière en quête d'exotisme, ni même le leurre d'une vie de luxe dans nos banlieues de Paris ou de Californie. C'est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Pouvons-nous les ignorer, détourner notre regard, accepter qu'ils soient refoulés comme indésirables, comme si le malheur était un crime et la pauvreté une maladie? Jean-Marie Gustave Leclésio a lu à l'antenne un texte inédit dans lequel l'écrivain prend position pour les migrants. L'animateur Augustin Trapenard lui a donné carte blanche. On l'écoute.
La vérité, c'est que chaque drame de la migration en provenance des pays pauvres pose la question qui s'est posée jadis aux habitants de Roquebillière lorsqu'ils ont offert l'asile à ma mère et à ses enfants. C'est la question de la responsabilité. Dans le monde contemporain, l'histoire ne répartit plus les populations entre factions guerrières. Elle met d'un côté ceux qui, par le hasard de leur situation géographique, par leur puissance économique acquise au long des siècles, par leur expérience, connaissent les bienfaits de la paix et de la prospérité. Et de l'autre, les peuples qui sont en manque de tout et surtout de démocratie. La responsabilité, ce n'est pas une vague notion philosophique, c'est une réalité, car les situations que fuient ces déshérités, ce sont les nations riches qui les ont créées, par la conquête violente des colonies, puis après l'indépendance en soutenant les tyrannies. Et enfin, au temps contemporain, en fomentant des guerres à outrance, dans lesquelles la vie des uns ne vaut rien, quand la vie des autres est un précieux trésor. Bombardements, frappes ciblées depuis le ciel, blocus économiques, tous les moyens ont été mis en œuvre par les nations puissantes pour vaincre les ennemis qu'elles ont identifiés. Et qu'importe s'il y a des victimes collatérales, des erreurs de tir, qu'importe si les frontières ont été tracées à coups de sabre par la colonisation, sans tenir compte des réalités humaines. La migration n'est pas, pour ceux qui l'entreprennent, une croisière en quête d'exotisme, ni même le leurre d'une vie de luxe dans nos banlieues de Paris ou de Californie. C'est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Pouvons-nous les ignorer, détourner notre regard, accepter qu'ils soient refoulés comme indésirables, comme si le malheur était un crime et la pauvreté une maladie? On entend souvent dire que ces situations sont inextricables, inévitables, que nous, les nantis, ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, qu'il faut bien des frontières pour nous protéger, que nous sommes sous la menace d'une invasion, comme s'il s'agissait de hordes barbares montant à l'assaut de nos quartiers, de nos coffres-forts, de nos vierges. Quand bien même nous ne garderions que l'argument sécuritaire, n'est-il pas évident que nos murs, nos barbelés, nos miradors sont des protections illusoires? Si nous ne pouvons accueillir celles et ceux qui en ont besoin, si nous ne pouvons accéder à leurs demandes par charité ou par humanisme, ne pouvons-nous le faire au moins par raison, comme le dit la grande Aïcha Hachemna, qui vient en aide aux enfants abandonnés du Maroc, « Donnez, car si vous ne le faites pas, un jour ces enfants viendront vous demander des comptes. » L'histoire récente du monde nous met devant deux principes contradictoires, mais non pas irréconciliables. D'une part, l'espoir que nous avons de créer un jour un lieu commun à toute l'humanité, un lieu où régnerait une constitution universelle. Et souvenons-nous que la première constitution affirmant l'égalité de tous les humains fut écrite non pas en Grèce, ni dans la France des Lumières, mais en Afrique, dans le royaume du Mali d'avant la conquête. Et d'autre part, la consolidation des barrières préventives contre guerre, épidémie et révolution. Entre ces deux extrêmes, la condition des migrants nous rappelle à une modestie plus réaliste. Elle nous remet en mémoire l'histoire déjà ancienne des conflits inégaux entre pays riches et pays sous-équipés. C'est le maréchal Mobutu qui, s'adressant aux Nations Unies, proposa une vraie échelle de valeurs établie non pas sur le critère de la puissance économique ou militaire d'un pays, mais sur sa capacité au partage des richesses et des services, afin que soit banni le mot de sous-développement et qu'il soit remplacé par celui de sous-équipement. Nous nous sommes habitués progressivement, depuis les guerres d'indépendance, à ce que des centaines de milliers d'êtres humains, en Afrique, au Proche-Orient, en Amérique latine, naissent, vivent et meurent dans des villes de toile et de tôle, en marge des pays prospères. Aujourd'hui, avec l'aggravation des conflits et la sous-alimentation dans les pays déshérités, on découvre que ces gens ne peuvent plus être confinés, qu'ils traversent déserts, forêts et mers pour tenter d'échapper à leur fatalité. Ils frappent à notre porte, ils demandent à être reçus. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort ? Dans son beau livre, le docteur Pietro Bartolo cite cette phrase de Martin Luther King qui n'a jamais sonné aussi vrai. « Nous avons appris à voler comme des oiseaux et à nager comme des poissons, mais nous n'avons pas appris l'art, tout simple, de vivre ensemble comme des frères. »
Nos sincères remerciements à Jean-Marie Leclésio et nos confrères de Radio France et France Inter. Grand merci.
Oh,
oui, là nous sommes en plein cœur du folklore Sega mauricien, en direct de l'île Maurice avec nos meilleurs DJ. Encore une fois, merci pour vos commentaires, merci pour les appels. On en reparlera peut-être, on invitera Jean-Marie Leclésieux à Toronto, qui sait. Dans un instant, les meilleurs succès de 2017 avec nos meilleurs DJ dans le monde. Les radios partenaires vous présentent les 40 meilleures chansons de l'été 2017. Du Maroc à Seychelles, à l'île Maurice, dans les Antilles, ou encore la Belgique, le Québec, la France. Les meilleurs succès de la francophonie sur votre fréquence. La compilation de nos meilleurs DJ grâce à Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Chaque dimanche, un voyage intercontinental dans le monde de la francophonie. Francophonie sans frontières. Les succès de l'été 2017, une compilation de nos meilleurs DJ à travers le monde. Une présentation de Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Do you try on all your knives like this? I might.
Si le bonheur va m'endurcir, dur dans la mer. Je sais pas si son cœur va me suffire, je rajoute la mer. Je regarde le ciel.
Toute l'équipe de la radio vous souhaite une excellente journée d'action de grâce. La fête de la solidarité et du partage. Action de grâce 2017.
I just wanna be part of your sunshine.
Popourri Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence.
Sur quelle planète suis-je tombé?
La planète Terre.
Bonjour.
RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Solo est un V.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Discover the secrets of Iceland. The Taste of Iceland Festival returns to Toronto November 9th through 12th. Experience a weekend filled with Icelandic culture. Savor the flavors prepared by renowned Nordic chef Viktor Orn, take in the free concert at the Horseshoe Tavern, and watch a series of Icelandic short films at the Royal Theatre. Discover the secret behind Iceland art and literature. Experience Iceland at the Taste of the Iceland Festival, November 9th through 12th. For more information, visit IcelandNaturally.com or search Iceland Naturally on Facebook.
Et oui, mesdames, messieurs, à ne pas rater, après les news de RFI, 20 ans de ciné franco, 30 ans de radio, soyez de la fête avec Marceline, la présidente, la directrice générale de Ciné Franco, qui vous donne rendez-vous au Ciné Carlton jusqu'au jeudi 12 octobre, à ne pas rater. Soyez les nôtres.
Maxime Jacquelin.
L'essentiel de l'actualité internationale, et on prend la direction de l'Espagne, où des dizaines de milliers de manifestants étaient dans les rues samedi pour demander la reprise du dialogue d'un côté, l'unité de l'autre dans la crise catalane. S'il y a indépendance, elle ne débouchera sur rien, affirme de son côté Mariano Rajoy, qui exige la fin des menaces dans un entretien au journal El País, le chef du gouvernement qui n'exclut pas une suspension de l'autonomie de la Catalogne. Un grave accident de voiture a causé la mort de 11 personnes ce samedi à Londres, près du Muséum d'Histoire Naturelle, un lieu très fréquenté de l'ouest de la capitale britannique. Le véhicule a quitté la chaussée avant de monter sur le trottoir et d'heurter plusieurs piétons. L'incident n'est pas lié au terrorisme, annonce Scotland Yard. Au moins 270 arrestations samedi en Russie après des manifestations en faveur d'Alexei Navalny. Ces manifestations pour demander la libération de l'opposant russe emprisonné étaient organisées à 5 mois de la présidentielle, un scrutin auquel Navalny ne pourra pas participer. Des défilés comme un défi le jour même de l'anniversaire de Vladimir Poutine qui fêtait ses 65 ans. L'ouragan Nate frappe désormais les côtes des États-Unis après s'être renforcé dans le golfe du Mexique. Plusieurs ordres d'évacuation ont été donnés le long du littoral américain par crainte des inondations. Nate, qui laisse derrière lui un lourd bilan matériel et humain en Amérique centrale, où 28 personnes ont perdu la vie. Les rebelles syriens ont lancé, avec le soutien de la Turquie, une nouvelle opération militaire dans la province d'Idlib. Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, annonce du président turc Recep Tayyip Erdogan, une zone en grande partie sous contrôle des djihadistes de l'ex-branche d'Al-Qaïda dans le pays et qui fait partie des 3 zones de désescalade où un cessez-le-feu doit être mis en place. Une opération de grande envergure de la MINUSCA samedi en Centrafrique pour chasser un groupe armé Peul présent depuis 15 jours dans la localité de Bokaranga au nord-ouest du pays. La force onusienne se félicite du succès de l'opération et annonce devoir désormais sécuriser la ville. Un gigantesque incendie à Accra au Ghana après 2 explosions dans une station essence du nord-est de la capitale guinéenne samedi. La police n'a pas encore indiqué s'il y avait des victimes. Elle demande toutefois aux habitants d'éviter le quartier. En football, les Bleus ont joué à se faire peur, mais ils restent en tête de leur groupe. Après leur victoire 1-0 face à la Bulgarie, les hommes de Didier Deschamps pourront donc décrocher leur ticket pour le Mondial 2018, mardi, en cas de victoire face à la Biélorussie. Le Nigeria est la première équipe africaine qualifiée pour la Russie après avoir dominé la Zambie, 1-0. Ça passe également pour le Costa Rica, qui pourra s'envoler vers la Russie en 2018.
La Radio Mondiale.
Il y a bientôt 15 ans, RFI, une trentaine de radios d'Afrique et de l'océan Indien, décidait de se réunir afin de créer un concours permettant aux artistes du Sud de sortir de leur isolement et d'accéder à la scène internationale. Ainsi naquit le concours Découverte, qui s'est progressivement ouvert à toute l'Afrique francophone, puis anglophone et lusophone, et enfin aux Caraïbes et à l'Amérique latine. Découverte est donc bien aujourd'hui le plus grand concours musical au monde. Mais revenons à 81. Le grand gala clôturant le concours se passait à Dakar, parmi les lauréats, Nawa Doumbia, du Mali. Hey,
font la danse du baba. C'est le B.A.B.A. de la fiesta. La danse du baba, oh, la danse du baba.
Angel, Likes Popouri Show, en direct from Mauritius. We say thank you, thank you, thank you. Beaucoup de personnes qui nous envoient des messages. Ils ont adoré hein, le personnage. Monsieur Jean-Marie Gustave Leclésio, il faut le réinviter. Qu'est-ce que vous en dites hein? Allez, on danse la bamba. Et d'ailleurs, j'aimerais dire un gros bravo aux gagnants-gagnantes des billets de Ciné Franco. Et merci à Ciné Franco. Merci à Marceline, Angie Zenten, professeur Corinne Bocchi, Jean Jubeneau, Roland Smith de la Société d'Histoire de Toronto, Ahmed Khan et Chantal Bazerk. Que des heureux, que des heureux, que des heureux. Oh, on danse. 20 ans de cinéma jusqu'au jeudi 12 octobre au cinéma Carlton avec Ciné Franco. Yep. Et pour cette 20e édition, Ciné Franco a concocté un cocktail pétillant de comédie des quatre coins de la planète francophone. Humour, comédie au rendez-vous, de Paris à Montréal, de la République très très démocratique de Gondwana, et en passant par le Maroc, jusqu'au 12 octobre, fête-t-on les 20 ans de ciné international francophone à Toronto, au cinéma Carlton. Demandez le programme, madame, monsieur. Réservez vos places immédiatement. www.cinefranco.com. Bonne fête à Ciné Franco. Bonne fête à Marceline. Bonne fête à tous les bénévoles de Ciné Franco. On est très content aujourd'hui, hein? Très 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 content, n'est-ce pas? Que c'était beau le film, une comédie satirique. C'était en première ontarienne, vendredi dernier, en présence de son réalisateur et l'acteur Stéphane Emmanuel Roy, à qui j'ai eu l'honneur de rencontrer. Oh, quel bonheur! Neuf, le film. C'est à voir, absolument. Si vous avez raté la séance de vendredi, dommage. Mais par contre, il y en a d'autres. Des petits bijoux, nous dit-on, jusqu'au 12 octobre au cinéma Carlton.
Bonjour Madame de Ciné Franco, la dame de cinéma qui est en forme, Marceline, oui. Ça va?
Ça va, merci.
Vous avez aimé la compagnie de Jean-Marie Gustave Le Clézio?
Absolument. J'ai trouvé votre émission plus que fascinante et j'ai tellement appris. Ça me motive pour lire son livre et c'est merveilleux parce que Eric, vous cultivez le goût justement d'aller chercher ailleurs, d'aller de lire, de voir des films, d'écouter des chansons merveilleuses, de danser à la samba. Moi, avec mes deux genoux remplacés et mes hanches de remplacer. Donc voilà, c'est de l'énergie pure que vous nous envoyez là.
Mais c'est ça la francophonie.
Oui.
Et vous le faites très bien à travers les films choisis pour cette 20e édition. Bravo, bravo, bravo. Vous faites, comme je vous l'ai dit cette semaine, des miracles. Parce qu'on sait, monter un festival de cinéma dans un milieu minoritaire, même si j'aime pas ce mot minoritaire, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je pense qu'il faut du courage, de la passion et cet engagement profond que vous avez pour la culture francophone du Canada.
Moi, je dirais que c'est presque une foi religieuse.
Voilà.
S'il y avait un couvent pour le cinéma,
je vais y penser. Hein. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans le film, Neuf le film, bravo hein, pour ce choix, c'est bien sûr mon acteur québécois préféré, un de mes acteurs préférés, Marc Labrèche.
Oui, bien sûr, oui.
Et justement, je dois accompagner une de mes auditrices pour aller choisir un téléviseur très prochainement.
Donc, d'accord. Alors, attention, hein, il faut bien vous tenir, donc. Hein.
Oui, en effet. Alors, c'était bien, hein, il y avait Salle Comble.
Il y avait Salle Comble, on a bien sûr invité beaucoup de gens, mais aussi des spectateurs sont venus nous soutenir en achetant leurs billets. On a eu jusqu'à présent un week-end extraordinaire d'enthousiastes, de personnes venues à la dernière minute ou venues voir un film et puis dire « Ah non, non, alors je vais rester jusqu'à la fin de la projection de tous les films. »
Ah oui.
On a eu... Enfin, moi, je suis aux anges. Je suis aux anges. Cet après-midi, on va avoir encore 3 comédies. Une de mes préférées, c'est « Je suis à vous tout de suite », qui est un film qui est sur la névrose de la gentillesse. Alors, attention, Eric, hein, la névrose de la gentillesse.
Oui,
pas trop gentil, quand même. Hein.
Il faut choisir avec qui on doit être gentil, n'est-ce pas?
Voilà, quand même.
Si vous voulez avoir votre part de dinde pour la fête de l'Action de grâce au Canada, parce que je ne pense pas que ça se fête en Europe, c'est seulement en Amérique du Nord, cette fête, n'est-ce pas? Alors, il faut être gentil avec ce qu'on aime.
Voilà. Et puis, pas trop méchant avec ce qu'on n'aime pas, quand même.
Ah oui, on sait comment les torturer. Justement, dans ce film, Neuf le film, c'est incroyable de voir comment les mots peuvent détruire un individu d'une façon très, très subtile, des fois.
Ah oui, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Et même... Enfin, là, je reviens un petit peu à cet après-midi avec Rock and Roll, qui est un film avec Guillaume Canet et qui met en scène la fameuse Marion Cotillard. Mais c'est un film aussi de la crise de la quarantaine où les générations, Guillaume Canet est un quarantenaire qui ne comprend plus ce que les vingtenaires lui disent.
Ah oui, oui.
Hein, donc, voilà
le décalage.
L'impact des mots. Et puis, on a aussi Cotillard qui croit que Xavier Dolan, dans La fin du monde, va lui demander de parler québécois et qui parle québécois pendant tout le film. Et Guillaume Canet lui dit et lui répète « Je ne comprends rien de ce que tu dis ».
Mais ben, nous aussi, nous avons le professeur en provenance de la Gondwana.
Oui, voilà.
Qui est toujours avec moi et qui fait une merveilleuse publicité pour Ciné Franco.
Bon.
Bonjour, madame. Comment allez-vous?
Oh, bonjour.
Je suis de la République très, 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 très démocratique de Gondwana et demain, le 9 octobre, je serai là pour vous dire un petit mot à vos cinéphiles.
Vous avez vos gardes du corps avec vous?
Alors, ça, c'est l'histoire d'un jeune Français idéaliste plongé en Afrique, n'est-ce pas?
Absolument. Et justement, le réalisateur Maman, que vous connaissez bien,
sûr, oui.
À travers sa chronique africaine.
D'ailleurs, je me pose des questions, comment se fait-il qu'il est toujours en vie, celui-là?
Ça, avec dit et tout ce qu'il dénonce, j'avoue que c'est un tour de force.
Oui, oui, oui. Alors, donc, ça, c'est un film. Surtout les immigrants, les Haïtiens, les Congolais, les gens qui sont de Cameroun, de la République très, très dramatique de Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là, vous vivez ici, vous ne savez pas quoi faire. Le 9 à 14 heures, c'est un rendez-vous à ne pas rater. Dites que vous êtes malade, tombez malade, prenez un rendez-vous quelque part et dites que vous allez chez le médecin.
C'est le lundi, c'est encore le long week-end, hein, le lundi.
Ah oui. Mais pour ceux qui...
Pour ceux qui, effectivement, doivent travailler...
Comme moi, par exemple.
Non, d'accord. Et on leur donnera un pass, on leur fera un petit certificat médical.
Oui, oui. Et ça, c'est une façon de dérider un peu les gens sur le vrai problème, mais en même temps, on s'attaque à certains instituts, par exemple, à une certaine manière de faire, la politique, les personnalités de ces pays d'Afrique, n'est-ce pas?
Exactement. Mais avec Je suis à vous tout de suite, c'est pareil. Enfin là, c'est la politique et un peu la religion, mais une religion où l'on se moque finalement des personnes qui mimétisent. Il y a un mimétisme religieux qui, derrière, n'a rien de solide.
Oui. Alors, il y a justement Elisabeth Lecré de Radio France Internationale, que je connais bien, qui dit « Le constat serait désespéré sans le duo incarné par le Français Julien et l'opposante gondwanaise Betty. Comme si seule la jeunesse pouvait apporter une touche optimisme et de démocratie à cette France-Afrique d'un autre âge. »
Oui, oui. C'est très, très beau. C'est très bien dit. Tout à fait.
Et le 11, Paris pieds nus.
Oui, Paris pieds nus avec la regrettée Emmanuelle Riva, dont c'est le dernier rôle. Mais c'est un film par le couple, le vrai couple dans la vie, Dominique Abel et Fiona Gordon. Fiona Gordon est canadienne et elle vit maintenant en Belgique. C'est un film belge, en fait, avec Emmanuelle Riva et Pierre Richard, encore une fois. Mais le couple Dominique Abel et Fiona Gordon incarne un comique burlesque qui est très proche de celui de Jacques Tati. Et ça, si vous voyez seulement la bande-annonce, vous allez rire.
Oui.
Éclat.
Alors, symbole du pouvoir, de l'autorité, en prenant parti pour la folie et la marginalité.
Oui.
Alors, ça, c'est prévu pour 20h30, je pense, le 11.
Voilà, oui. Mm-hmm.
Et ça, c'est parmi mes préférés. Comment c'était la réaction Embrasse-moi, le film de vendredi soir, Embrasse-moi?
Ça a été une bonne réaction. Je crois que les gens souriaient. Ils étaient heureux, ils étaient contents. C'était pas une comédie mais c'était il y avait de la légèreté, il y avait de l'humour et puis ça s'adressait à tout le monde. Hein. Si vous cherchez la personne de votre vie, qu'elle soit si vous êtes femme, qu'elle soit femme ou homme, et si vous êtes homme, homme ou femme, je pense que ça s'adressait à tout le monde.
Vous connaissez cet adage qui dit « l'amour est aveugle » ?
Oui, oui.
Ouais. C'est un peu ça, hein ?
C'est tout à fait ça.
Laisser aller son cœur, les battements de son cœur, là où tu veux voguer dans ta vie et réussir ta vie avec celui ou celle que tu veux. On fait de la comédie, radio-théâtre, radio-ciné.
Radio-poésie aussi.
Oui, radio-poésie aussi. Alors, et puis, quels sont les autres films que vous nous proposez avant pour la fermeture?
Pour la fermeture, on a un thème romantique. Mmh. Avec les ex, c'est un thème anti-romantique. Et avec Marie-Francine, c'est un thème de comédie sentimentale, attachante pour Valérie Lemercier, attachante et un peu grinçante aussi, mais avec beaucoup d'humour.
Alors, donc, vous avez encore des places qui sont disponibles?
Vous savez, les places se vendent très vite.
Je suis très, très, très heureux pour vous. Je suis très content. Vous ne savez pas, quand on a lancé le concours la semaine dernière, vous savez, nous, on se prend pas tellement sérieux. Un petit jeu comme ça, on pose des questions. Et puis, à ma grande surprise, Marcel, il y avait un avalanche de réponses.
Oh, je suis tellement heureuse. En fait, si vous voulez, pour Bienvenue au Gondwana, que vous avez l'air de bien connaître.
Oui.
Moi, je veux bien que vous relanciez peut-être un appel.
Ouais.
Gagner 4 billets, donc 2 paires de billets.
Ok, très bien. Professeur, est-ce que vous... Oui, alors le professeur est d'accord. Hein? D'ailleurs, il veut vous dire un petit mot. Madame, je suis très, très heureux. Mon cœur palpite et je veux vous remercier pour ces billets. Vous êtes vraiment formidable. Je vous souhaite vraiment bon succès pour votre Ciné Franco 20 ans. Je vous souhaite encore un autre 20 ans. Je serai toujours là à vos côtés pour vous aider.
Merci, c'est vraiment charmant. Mais surtout, hein, vos gardes du corps, c'est très important ici. Hein.
Oui, en effet. Alors, et puis, ce que je trouve formidable cette année, Marceline, c'est que vous êtes très bien située cette année.
Oui, oui.
C'est très accessible. C'est le métro collège, madame, monsieur. Il n'y a pas d'excuse pour dire, oh, c'est loin, dans le fin fond des territoires. Non. Le Gondwana vient au centre-ville de Toronto, au métro collège.
Tout à fait. Métro collège, quelques pas.
Oui.
Et puis, vous êtes là. Voilà.
Oui. Et c'est très facile de vous reconnaître, oui. Vous allez avoir... quelle robe allez-vous porter pour la présentation de Gondwana.
Peut-être que ce que je vais faire, je me suis acheté une veste militaire.
Oh oui. Ça, nous en avons aussi, ça. Nous en connaissons très bien, ces vestes, pour aller à la chasse, n'est-ce pas?
Qu'est-ce qu'ils appellent en anglais the fatigue, yes. Military, ouais. Je ne sais pas, vous savez, avec le vert, ouais. tous les militaires pour se cacher, là.
Uh-huh. Oui. Donc, vous pouvez être dans les bois, dans les forêts.
Voilà.
Pour ne pas vous reconnaître.
Voilà, je me cacherai quand même.
Oui. Alors, très bien. Alors, donc, dernier appel, et puis aussi peut-être un mot pour remercier tous vos sponsors, oui. Tous les gouvernements. La parole est à vous, parce que je pense que c'est très, très important publiquement de les saluer pour leur encouragement et leur participation financière.
Tout à fait d'accord. Vous savez, dans ces 20 ans, on a eu énormément de commanditaires. Mm-hmm. Cette année, alors j'ai peur d'en oublier, mais nous avons eu OMDC, nous avons eu OLG, nous avons eu Téléfilm Canada, nous avons eu la réserve parlementaire des sénateurs français. Nous avons eu également Patrimoine canadien. Nous avons eu le SAIC. Nous avons eu Téléfilm Canada. En tout et pour tout, environ la TFS aussi, mm-hmm. très importante, parce qu'elle vient d'entrer dans ce cercle des commanditaires, et donc très important pour nous, parce que on peut développer avec eux peut-être aussi des ciné-clubs pour leurs jeunes,
oui.
aussi, et puis
le Bureau du Québec.
Voilà, le Bureau du Québec, superbe. On a eu beaucoup, beaucoup de chance cette année, parce que les autres subventions sont vraiment tombées, et des subventions qu'on a eues jusqu'en 2015 nous avaient permis d'aller jusqu'au zénith du 2015, et puis après ça a été la dégringolade en fait. Mais merci aux écoles aussi, parce que c'est eux qui nous soutiennent, et nous avons un programme jeunesse qui va venir du 20 février au 7 mars 2018, et j'espère qu'il sera aussi fréquenté que celui de 2017, où on a eu 9000 inscrits et 8500 participants.
Wow.
Oui, alors donc je les remercie infiniment, et pour leur rendre hommage, justement demain à midi, on montre un film qui n'est pas une comédie, mais qui s'appelle Primaire, et qui est un film qui rend hommage au dévouement des enseignants pour sauver les enfants qui en ont besoin, justement.
Oui. Alors voilà, pour ceux qui sont sceptiques, qui disent qu'il n'y a pas de vie francophone à Toronto, en Ontario, le message est passé. Ça fait 20 ans que Ciné Franco existe et on vous donne rendez-vous pour aller rencontrer Marceline, les bénévoles. C'est une façon de démontrer votre affection à tous ces bénévoles. Je dis bien ces bénévoles qui acceptent de prendre de leur temps pour venir aider Marceline et Ciné Franco. Grâce à eux, grâce à tous ces commanditaires, vous pouvez encore une fois savourer les films choisis par Marceline et Ciné Franco. Vous avez jusqu'au jeudi 12 octobre pour fêter les 20 ans de Ciné Franco au Cinéma Carlton, très facile d'accès, c'est le métro Collège. Et vous sortez du métro, vous dirigez un peu vers l'est sur la rue Carlton Collège, et là vous allez trouver à gauche le Cinéma Carlton. D'ailleurs, c'est un peu une salle emblématique, hein. C'est une salle qui dure depuis quoi, ça, très longtemps, hein.
Oui, vous avez tout à fait raison sur une salle emblématique. Un cinéma, je crois qu'il y a 8 salles qui projettent des films d'art, des films, je dirais pas sérieux nécessairement, mais qui comptent dans le cinéma.
Oui, et des films engagés aussi.
Oui, tout à fait.
Ouais, ouais. Alors, un peu comme nous d'ailleurs, parce que justement, quand les gens ont entendu parler de notre invité de marque aujourd'hui, Jean-Marie Gustave Leclésio, et là, je reçois des courriels, des messages en disant son dernier livre, Alma, c'est vraiment un engagement envers les plus démunis, les migrants, comme vous le savez très bien vous-même, que c'est un problème européen, mondial d'ailleurs. Et nous aussi, nous avons des réfugiés qui viennent frapper à nos portes. Et c'est bien de voir des artistes, des écrivains qui prennent part, si vous voulez, au dialogue entre les cultures pour que les bonnes causes avancent. Et par la culture, on peut faire avancer beaucoup de causes d'ailleurs.
Absolument, la culture et l'art.
Oui, oui. Et oui, j'ai parlé aussi de nos amis en Égypte, hein. C'est grave ce qui est en train de se passer là.
Absolument, absolument. Cette intolérance, et je trouve que c'est une atteinte à la liberté, mais c'est une atteinte à l'humanité en fait.
Oui. Cher Marcel, au nom de tous les professeurs, les étudiants, les auditeurs et les amis, ensemble avec moi en studio. Bravo.
Merci, merci, merci. Au revoir, madame, et je vous souhaite une bonne journée, là. Hein? À la prochaine.
Merci, Marcel. Au revoir.
Merci.
RFI, 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 RFI.
Le rythme.
RFI.
Et la cadence.
Je vois que tu me regardes depuis un moment. Je vois bien que t'essayes enfin de m'aborder. Viens, ne sois pas hésitant, je ne suis pas méchante. J'attends juste que tu fasses le premier pas. Même si on ne se connaît pas, je te trouve plutôt pas mal. Ce n'est que le début d'une belle histoire. Tu peux me parler depuis le début, je t'attendais. Parle-moi enfin de toi, quelles sont tes habitudes? J'ai kiffé sur ta voix, comme tu vois, je suis émue. Avance près de moi, mon corps et mon cœur n'en peuvent plus. Doucement, je me suis laissé envoûter, ton parfum sur mon cou. Je me suis laissé envoûter, tu m'as dit des mots doux. Tu es celui qu'il me faut, je ne vois plus que nous. Doucement, je me suis rapproché, j'ai mis mon parfum sur ton cou. Je ne laisserai aucune autre fille te regarder. Entrer dans ma vie, rien pourra nous.
suis rapproché. Non, je sais à quoi tu penses. Désormais, je vais plus résister. Je suis tout à toi. Pour une danse. Sa peau est contre ma peau. Voilà que nos corps se mêlent. Tu as mis tes mains sur mes hanches. Dis-moi que je te plais. C'est bien plus simple. Tu m'attires. Je reste près de toi. Je veux tout savoir. Dis-moi ce que tu aimes en moi. Je veux vivre pleinement comme si ma vie était un voyage. Qu'on soit plus timide. Tous les deux, on a pris le large. Zapa, zapa. Lentement et en douceur. Ensemble on allume la flamme. Pas à pas, pas à pas. Lentement et en douceur. Tous les deux on est liés. Je te connais déjà par cœur. Donne-moi le meilleur de toi. Et ne me déçois pas. J'ai mis de côté ma routine. Ensemble on allume la flamme. Je me suis laissé envoûter ton parfum sur mon cou. Je me suis laissé envoûter. Tu m'as dit des mots doux. Tu es celui qu'il me faut. Je ne vois plus que nous. Doucement, je suis rapprochée, j'ai mis mon parfum sur ton cou. Je ne laisserai aucune autre fille te regarder. Entrer dans ma vie, rien ne pourra nous séparer. Soubé, 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 soubé. Accorde-moi une danse, je vivrai à ton rythme. Jusqu'à ce que tu me dises que rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous séparer, non, non. Laisse-moi enfin repousser toutes mes limites. Jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Rien ne pourra nous séparer. Tout doucement. Me réveiller près de toi, Puerto Rico. Oui, dans une chambre près de toi, au bord de l'eau. Tu es tout ce que je veux, je ne rêve que de nous deux.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Celebrating 30 years on the FM dial. Stream CIUT or listen to recent shows at www.ciut.fm.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Écouter est la plus grande des qualités. Écouter les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct. Et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre, que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nous.
Vingt ans de ciné franco jusqu'au 12 octobre. Ici le grand professeur de la République très démocratique de Gondwana. Je suis fier d'être de la fête et je vous offre des billets gratuits grâce à Ciné Franco pour venir à cette séance spéciale le 9 octobre à 14h. Bienvenue au Gondwana.
Oh,
Bumba Africa Bese Bena Gino Ibunda Idunina.
Et oui, 20 ans de cinéma, madame, monsieur, à ne pas rater. Grâce à Ciné Franco et Marceline, nous avons deux paires de billets pour vous. Vous nous envoyez un message immédiatement à popourri@cut.fm si vous voulez être des nôtres le 9 octobre à 14h. Bienvenue au Gondwana, au cinéma Carlton. Soyez de la fête, 20 ans de cinéma, 30 ans de radio, www.cinefranco.com. Et oui, Autospace vous convie à l'exposition d'art ayant pour thème Flo. Soyez des nôtres avec la photographe artistique Martine Côté, la collagiste José Durand-Lau et le designer de mobilier de bois contemporain Stéphane Redlich. Réception, invitation au vernissage jeudi 19 octobre de 18h à 21h. Et oui, Martine Côté qui est une artiste photographe à travers une approche rigoureuse à la photographie. Elle a développé un langage visuel faisant appel au temps, au mouvement et à la lumière. Et si vous voulez admirer ses œuvres, Autospace situé au 652 rue Gerrard Est, Toronto. Allez sur le site www.autospace.ca. Et oui, bonjour, bonjour Martine Côté, ça va?
Bonjour Monsieur Canard, oui, ça va bien vous aussi?
Oui, ça va très bien. Alors, c'est une grande découverte, je pense, pour les auditeurs de la région de Toronto, c'est de bien de voir qu'il y a des artistes émergents comme ça dans la communauté francophone. Vous êtes actuellement oui. Où en ce moment?
Alors, je me trouve à Toronto. Je suis originaire de la ville de Québec, mais maintenant, j'habite Toronto justement dans l'optique de poursuivre cette carrière en photographie artistique. Et donc, c'est ici que j'ai rencontré mes amis et talentueux artistes qui vont faire partie de l'exposition Flo.
Alors, oui. Dans cette exposition, on nous dit qu'il y a trois âmes créatives. Comment oui. vous vous êtes faites pour vous rencontrer?
Oui, ben écoutez, c'est des amitiés qui se sont créées. Je pense que ça, c'est aussi ça le flow, hein? C'est le flow d'énergie qui passe entre les gens au fil des rencontres. Et puis, dans les activités francophones, José Durand-Lau et moi, on a fait connaissance, ça a cliqué. Et puis, Steven est une personne qui a aussi un excellent réseau de contacts. On s'est rencontrés à travers les arts aussi. Donc, voilà. Alors, on a mis tout le monde ensemble, les énergies, les forces, les arts. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de l'exposition.
Oui. Alors, nous avons la chance d'avoir reçu des photos, vos oui. biographies. C'est un peu subliminal, hein? Ce ne sont pas des photographies qu'on a l'habitude de voir. Alors, parlez-nous un peu, sans dévoiler tout le secret, comment tout ça se sont fait et le fil conducteur entre les trois artistes?
En fait, la photographie abstraite, c'est vraiment tout est bâti dans la prise de vue. Pour répondre à votre première question, donc vraiment, c'est pas du tout des arts digitales. En fait, c'est vraiment dans la prise de vue. Donc, il y a du mouvement qui s'intègre et tout ça. Il y a des éléments qui reviennent d'une fois à l'autre. L'eau, la terre, le ciel. Mais tranquillement, pas vite, la lumière fait... Évidemment, la lumière est toujours là, mais les lumières du soir aussi viennent s'intégrer dans les visuels des différentes œuvres. C'est une œuvre qui a commencé il y a quelques années et qui, je pense, pour moi, va se poursuivre jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et puis, le lien entre les trois types d'œuvres, je vous dirais que c'est vraiment par rapport à la manière de créer. Donc, quand on crée vraiment, on s'immerge dans notre art. On est vraiment presque en transe, je vous dirais. Puis, on cherchait justement le fil conducteur parce qu'on savait qu'on, nous, comme personnalité, on avait des choses en commun, mais nos arts, c'est vraiment dans la manière de créer. c'est ce qui nous rallie les trois ensemble.
Mais, vous savez, nous connaissons José Durand-Leu depuis très 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 longtemps.
Oui.
Elle a eu plusieurs vies, je dirais même, lors de, de sa carrière. Et c'est très intéressant de voir que ça a commencé tout jeune chez elle. Par exemple, elle a commencé, elle avait cet amour dès son plus jeune âge à faire du collage, des cartes postales, des cartes de souhaits.
Oui.
Et aujourd'hui, son travail...
Elle est musicienne également.
Oui, elle est musicienne, danseuse. Elle a peut-être d'autres talents qu'elle nous cache, qu'elle ne nous dit pas toujours. Et puis, elle est aussi publiciste. Elle fait de la publicité pour plusieurs groupes communautaires, mais aussi le Théâtre français de Toronto et tout ça. Donc, on la connaît depuis très longtemps. Mais je ne sais pas si vous avez de quoi sur elle, mais moi, j'ai sa biographie. Mais parlez-nous un petit peu, justement, son rôle et le genre d'exposition qu'elle va... Enfin, sa participation dans cette exposition.
Mais en fait, José, c'est notre moteur, je vous dirais. On en a tous un, mais elle a une énergie flamboyante. Et donc, son rôle, elle a été très active, justement, dans les communications. Et puis, maintenant, voilà, elle est en train de créer aussi une nouvelle collection pour l'exposition. Voilà, donc José, chaque participation est précieuse. On a mis toutes nos forces en commun.
Et je pense aussi qu'elle a ce penchant et cet amour d'avoir un regard spécial sur la place des femmes dans le monde des arts.
Oui, elle se définit comme féministe. On se rejoint sur ça aussi. Puis ça la représente bien aussi parce que c'est une personne qui a une grande force intérieure. Donc... et comme femme, comme être humain aussi, donc ça se transmet à travers son travail.
C'est magnifique. Alors, ce qui m'a fait sourire un peu, c'est ce propriétaire de Harry Furniture et de Autospace, Stéphane Redlich. Comment se fait-il qu'il s'est joint à vous?
Ben, en fait, c'est que son travail comme designer de mobilier, il a élevé son travail, ses meubles à un état d'art. Et c'est pour ça qu'il se joint à nous. Parce que vraiment, c'est comme un média qui est différent, mais qui est fine art, on va dire en anglais, mais bon, excusez-moi l'anglais dans une entrevue en français. Donc, c'est de cette façon-là qu'il s'est joint à nous. Et il y a un sens de l'esthétique qui est remarquable et il est très attiré par les arts d'ailleurs. Il se fait un devoir, justement, à travers Autospace, de promouvoir le talent des gens. Et là, maintenant, ben, c'est son tour. Donc, il embarque dans l'aventure.
Oui. Alors, vous savez, il faut dire que quand on va dans certains endroits au Québec, par exemple, Saint-Jean-Par-Joli, là, on peut voir des sculpteurs qui font des œuvres extraordinaires avec le bois. Mais ici à Toronto, corrigez-moi si j'ai pas pu voir justement de nombre de sculpteurs de bois, seulement peut-être dans des expositions très atypiques. Et là, c'est un peu un spécial de voir un designer de mobilier de bois contemporain qui se joint à vous. Alors, comment ça se passe avec les autres tableaux de photographie? Parlez-nous un peu comment tout ça se juxtapose.
L'intégration, si on veut, du bois avec les œuvres au mur, disons ça, ben, en fait, je pense que c'est tout complémentaire. Hein? Donc, comment ça se juxtapose, je vous dirais que vraiment, on va créer au sein de l'exposition un espace pour ce qui est des mobiliers contemporains. Donc, on aura chacun notre endroit, si on veut, à l'intérieur de l'exposition, notre espace, mais aussi, ce sera bien défini de un à l'autre. Donc, je pense que ça fait un beau tout ensemble. Oui. Et puis, chaque personne qui vient, on se disait, les gens qui viennent nous visiter, qui viennent prendre connaissance de ce qu'on fait, auront certainement d'un côté ou de l'autre peut-être un petit coup de cœur.
Et d'ailleurs, il faut rappeler aux gens que Stéphane Redlich, qui est designer de mobilier de bois contemporain, eh bien, avant ça, il avait une autre vie, madame, monsieur. Il était ingénieur en structure dans le domaine aéronautique et comme développeur de logiciels. Quel changement!
Mais quel changement! Mais aussi, trouvez-vous que... Moi, je suis toujours impressionnée. Comme vous disiez tout à l'heure, José a eu plusieurs vies. C'est le même cas pour Steven qui, lui, justement, a été même autodidacte à plusieurs reprises. Évidemment, on ne devient pas ingénieur autodidacte, mais d'une vie à l'autre, je pense que là, c'est aujourd'hui que ça se transmet à l'intérieur de son travail. Écoutez, il vous racontera lui-même quand vous serez là à l'exposition, mais il y a un souci du détail qui est importé de son expérience en aéronautique. Il va toujours s'assurer que ce qu'il crée est léger.
Je rappelle aux gens que je suis en exclusivité avec l'artiste photographe Martine Côté, qui sera à l'exposition à ne pas rater, l'exposition d'art Flow par trois grandes âmes. Martine Côté qui est avec moi, José Durand-Lot et Stéphane Redlich. Et je rappelle que Martine Côté a une collection filée, dont plusieurs photographies en édition limitée qui la composent ont déjà été acquises par des collectionneurs privés au pays. Donc vous êtes très chanceuse et peut-être milliardaire encore, non, pas encore?
Tout juste.
Donc on peut gagner sa vie, c'est ce que je veux dire, pour les jeunes qui nous écoutent, qui ont peut-être des talents cachés au fond de leur âme, de leur cœur. Il y a cette petite voix des fois qui nous dit, allez, tente ta chance, fais quelque chose.
Je suis tellement heureuse que vous amenez ça, il faut le faire. Oui. Alors, allons jusqu'au bout, on a une seule vie à vivre.
Oui. Et même si vous êtes dans un travail très régulier, tout ça, des fois, il y a des talents artistiques cachés chez vous, madame, monsieur.
Oui, il y a la créativité partout.
Alors, parlez-nous un peu de Autospace, parce que pour moi qui suis ici depuis 30 ans qu'on fait cette émission, j'avais jamais entendu parler de Autospace.
Ah, mais c'est bien normal, parce que c'est nouveau. Donc, Autospace, c'est quand même... vous parliez d'artistes émergents tout à l'heure, mais c'est un endroit émergent aussi, donc c'est parfait. Et c'est un lieu qui est vraiment qui est spécial. C'est un lieu ouvert. On n'est pas dans une galerie d'art régulière dans le coin du quartier chinois, mais dans l'est, donc sur Gerrard. Et pour vous dire, dernièrement, il y a un artiste graffiteur qui s'appelle Chris Perez et qui est venu peindre l'extérieur du building en son entier avec un design floral extraordinaire. C'est explosif, c'est magnifique à voir. On reconnaît le building à plusieurs centaines de mètres. Mmh. Et il y a même une murale à l'intérieur, donc c'est possible de voir ça aussi. Et Autospace, donc, accueille des expositions comme celle qu'on va voir, mais aussi des événements... Et voilà, c'est pour ça qu'on a aussi choisi ce lieu-là. En fait, c'était facile de choisir. C'est aussi Steven qui a démarré cet endroit récemment. Oui.
Alors, je rappelle aux gens que réception, vernissage le 19 octobre. C'est un jeudi à 18h et l'exposition dure jusqu'au 22 octobre. Et les portes s'ouvrent de 11h chaque jour. Et donc, vous pouvez aller sur le site www.autospace.ca pour tout savoir. Autospace est situé à 652 rue Gerrard Est. D'ailleurs, ce quartier, madame, monsieur, c'est pas très loin de là où j'habite, ça change, ça évolue.
Oui.
Il y a plein de petits bistrots mexicains, japonais. Ah oui, ça change énormément. Avant, c'était un peu connu pour le quartier indien parce qu'il y a une grande communauté indo-canadienne qui vivent là. Mais toutes ces boutiques s'envolent, je ne sais pas où ils se déplacent, mais on trouve des bistrots, des restaurants, des bistrots très nouveaux là qui s'ouvrent dans ce quartier. Et donc, vous pouvez marcher allègrement, surtout que l'été dure jusqu'à la fin de l'année, nous dit-on. Il n'y aura pas d'hiver cette année. Alors, c'est une belle occasion de se balader dans le quartier Leslieville, que j'appelle. Donc, encore une fois, on vous dit merci à tous ces artistes, José Durand-Lot, Stéphane Redlich, je vous le dirai à nos bonjour, notre bonjour.
Je manquerai pas.
Et Martine Côté, ce sera une première peut-être pour nous de nous rencontrer, si j'ai le temps, si je suis ici à Toronto.
Je l'espère, mais oui.
J'aimerais bien aller vous voir.
Et bienvenue, on va vous attendre.
Bien sûr, et encore une fois, bravo pour nous faire voyager, voguer un peu dans vos délires artistiques.
Merci.
Passez une très bonne journée et bonne fête d'Action de Grâce.
Demain.
Bonne fête d'Action de Grâce. Je demande aux gens de vous applaudir, voilà. Ils sont nombreux. À très bientôt. Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Madame, monsieur, c'est sur cette aire de samba qu'on va tirer notre révérence. Je vous rappelle encore une fois que nous avons des paires de billets grâce à Ciné Franco, si vous voulez être des nôtres pour assister à ce film, le Gondwana, le 9 octobre à 14h. Deux paires de billets, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Groupe social pour femmes francophones de 16 ans et plus, le thème du mois, la femme au Niger. C'est prévu pour le 27 octobre de 18h à 20h. Le lieu est secret, communautaire, confidentiel, sécuritaire. Vous pouvez téléphoner à Denise au 905-454-3332, poste 301 ou encore Denise G. @oasisfemmes.org. C'est bien sûr organisé par Oasis Centre des Femmes de Toronto. Repas offert, transport de TTC remboursé et contribution aux frais du gardiennage. Voilà. Et puis une soirée en grande pompe, l'ancien membre phare du groupe de rap français Section d'Assaut rejoint le Panthéon en cire des stars. Le chanteur Maître James, très apprécié des jeunes et de nos auditeurs dans la région de Toronto, fait son entrée au musée Grévin. C'était le lundi 2 octobre dernier, incroyable mais vrai. Et puis vient de paraître Perspective créole sur la culture et l'identité franco-ontarienne. Nous aurons le plaisir la semaine prochaine d'accueillir Aurélie Lacassagne. Elle est française et ce livre, cet essai est sorti aux éditions Prise de Parole. La semaine prochaine, ne pas rater, soyez des nôtres. Et puis, professeur Alexis Chouap sera des nôtres. Il est le nouveau directeur du département de français Campus Saint-Georges. On parlera aussi dans la nouvelle chronique à vous la parole, VIH-SIDA, la stigmatisation ne recule pas, ralentir la réplication virale dans le tractus gastro-intestinal. L'université franco-ontarienne pose beaucoup de questions encore. Faites-moi pleurer, c'est un article récemment paru dans le journal Le Droit à Ottawa. François Charbonneau sera des nôtres. Et si vous voulez vous abonner à notre émission et nous aider lors de notre prochaine campagne d'adhésion qui se déroulera le mois prochain, au mois de novembre, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm si vous voulez être parmi nos collaborateurs, correspondants ou encore partenaires. Grand merci à l'avance. Un message de l'attaché de presse et d'affaires publiques du consulat général de France de Toronto, Yann Le Borne, qui nous a envoyé un très beau message. Bravo pour la qualité de vos émissions. Enfin, un grand merci à tout le monde. Et là, je remercie DJ Devera. Merci d'avoir été là, Jean-Marie L'Ecclésio, nos DJ partenaires de l'Express de Toronto et RFI Musique, Martin Côté, et bien sûr, Lisette Mallet, qui malheureusement n'était pas là, mais je vais quand même faire suivre le rendez-vous de la Société d'Histoire de Toronto. Il y a une très belle marche, visite guidée, samedi prochain. Je vous envoie tout ça par courriel. Et merci à Marceline et Ciné Franco. On vous donne rendez-vous au Ciné Franco et dimanche prochain.
Okay.